Émission spéciale pour le mercredi saint. Comment Jésus a-t-il sauvé le monde? Il y a une conception qui date de saint Anselme, il y a moins de 1000 ans, qui a malheureusement troublé beaucoup d'âmes, puisqu'il y a une drôle d'interprétation que l'on a faite de ce texte de la première épître aux Corinthiens. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et cette affirmation, elle appartient à la toute première prédication apostolique, il faut le reconnaître. Puis elle reste au cœur de notre foi. Je ne voudrais pas la nier, c'est pas ça du tout mon intention. Mais la façon dont on se représente, là, la passion de Jésus, il prend sa croix, il se fait crucifier, il verse son sang, il meurt. Et puis Dieu semble satisfait jusqu'à un certain point, Dieu le Père semble satisfait jusqu'à un certain point de ce sacrifice sanglant, son Fils qui est mort. Tout ça, ça a évolué, hein? Du fait de notre lecture, depuis bien des dizaines d'années, la lecture qu'on fait du drame de la chute de nos premiers parents dans la Genèse, on n'interprète plus ce troisième chapitre de la Genèse de la même façon. On nous racontait qu'Adam et Ève, qui étaient dans un état extraordinaire de dons fantastiques, ont commis une faute d'orgueil, on disait aussi en mangeant un fruit défendu à un arbre. Et on s'est rendu compte finalement, avec les exégètes et sous la conduite de Pie XII, du pape Pie XII, qu'on pouvait penser autrement. Nous avons une façon d'interpréter maintenant de plus en plus le sacrifice rédempteur, comme on dit, le sacrifice qui nous a sauvés. Le sacrifice du Christ, comment il nous a sauvés. Notre façon n'est plus forcément celle que chantaient nos parents, puis qu'on a chanté nous-mêmes. Le jour de Noël, minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu, Jésus, est venu jusqu'à nous pour effacer la tache originelle et de son Père arrêter le courroux. Fallait arrêter la colère de Dieu. On nous disait que Dieu était amour en même temps, et là, on était bien mêlés. J'avoue que quand j'avais 16 ans, je ne comprenais plus rien à tout ça. Et voici donc, au fond, la façon qu'on avait en résumé. C'était l'ancienne représentation de ce mystère de la rédemption, comme on l'appelle, la façon dont on a été sauvé et arraché au péché. Le paradis terrestre, qui aurait été situé on ne sait trop où, où les loups ne couraient pas après les agneaux, où les animaux s'entendaient à la perfection, tout à coup, on ne sait pas pourquoi, dans cette région-là du monde, c'était comme ça. Il y a 4000 ans, puis ensuite on a dit 10 000 ans, 200 000 ans, on est rendu à 1 million d'années ou 2 millions d'années, on ne sait plus trop avec l'anthropologie. Je vous en ai parlé l'autre jour avec l'abbé Breuil, qui était le père de l'anthropologie, n'est-ce pas? Un prêtre, oui. Puis, du paradis terrestre, mais il y a la chute originelle. Alors, nous quittons nos parents, nos premiers parents quittent le paradis et sombrent dans les difficultés de la vie que nous connaissons. Puis, donc, ce sont les conséquences de la chute. Puis là, survient, au bout de X années, qui sont très nombreuses, comme je viens de vous dire, le sacrifice du Christ, qui plaît au Père. Puis il faut que nous ajoutions, nous, notre immolation de nous-mêmes à la justice de Dieu, hein, toujours à la justice de Dieu. Vous savez que le cardinal Ratzinger a écrit à ce sujet. Et le cardinal Ratzinger, qui est un homme très sûr dans l'Église, si sûr que le pape se fie à lui pour affirmer les vérités que nous devons croire. Il a déjà écrit dans Foi chrétienne hier et aujourd'hui, il y a bien longtemps, il y a plus de 20 ans, 1976, aux éditions MAM. Je donne la référence à la page 197, il écrit « Pour un très grand nombre de chrétiens, et surtout pour ceux qui ne connaissent la foi que d'assez loin, La croix se situerait à l'intérieur là, d'un espèce de mécanisme de droit lésé et rétabli. Qu'est-ce que ça veut dire? Il continue, il dit, ce serait la manière dont la justice de Dieu, infiniment offensée, aurait été à nouveau réconciliée par une satisfaction infinie qui est la mort de son Fils en croix. Il ajoute, certains textes de dévotion semblent suggérer que la foi chrétienne en la croix se représente un Dieu dont la justice inexorable a réclamé un sacrifice humain, le sacrifice de son propre Fils. Écoutez bien ce que le cardinal Ratzinger dit, le bras droit du pape, pour ainsi dire, sur le plan de ce que nous devons croire, le bras droit du pape Jean-Paul II, je l'appelle comme ça. Bon. Autant cette image est répandue, dit-il, autant elle est fausse. La Bible ne présente pas la croix comme partie d'un mécanisme de droit lésé. C'est ce que dit le cardinal Ratzinger. Voici en effet cette ancienne représentation du mystère de la rédemption. Moi, j'ai été formé là-dedans. J'ai laissé abandonner ça vers l'âge de 16-17 ans. C'est l'abbé Pierre Descouvemont, qui est un prêtre très sérieux, qui a écrit beaucoup sur Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, et beaucoup écrit d'autres livres, et en particulier le guide des difficultés de la foi catholique. Énorme volume. Il commence par le paradis terrestre. Il dit, le premier couple humain a vécu un moment dans un état de perfection totale. Il y a, on le sait maintenant, comme je vous ai dit, environ 200 000 ans, peut-être plus, peut-être 1 million, et même plus. Même. Enrichi de tous les dons surnaturels, disait-on, Adam et Ève vivaient en parfaite amitié avec Dieu, dans une totale sainteté. Cette relation parfaite avec Dieu se répercutait dans leur nature humaine par 3 dons préternaturels, on appelait ça comme ça. Le premier, c'est parfaitement maître de leurs désirs sensibles. Ils étaient incapables de se laisser aller à la gourmandise ou à la sensualité. Non, vraiment pas. C'était pas possible pour eux. Il n'y avait rien de tel chez eux. Rien comme ça. Et alors, les amoureux ne pouvaient pas accomplir autre chose que leur devoir. Et le fait d'avoir mordu dans le fruit défendu n'a jamais été considéré comme un péché de gourmandise. C'est ce qu'on disait aussi. Nos premiers parents ne connaissaient pas la souffrance. Ils n'avaient pas péché. Ils seraient entrés dans leur éternité sans passer par la mort, paraît-il. C'est ce qu'on disait. La mort, ils ne connaissaient pas ça. Parce que Dieu dit en effet à Adam, « Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. » Alors on interprétait ça littéralement. Attention aux interprétations littérales. Si ton œil te scandalise, arrache-le. Il faut pas prendre ça au pied de la lettre. Nous serions tous borgnes et même aveugles. Moi le premier. S'ils avaient triomphé de la tentation, nos premiers parents, à laquelle ils ont été soumis, ils auraient transmis cet état paradisiaque à tous leurs descendants. Nous serions tous dans cet état. Mais, comme nous sommes libres, il aurait pu y en avoir l'un ou plusieurs qui auraient enfreint la loi. Et qu'est-ce qui aurait arrivé? Il y en aurait qui auraient joui des dons préternaturels et les autres les auraient pas eus. On aurait été divisés sur un continent, les autres sur un autre. Très étrange, hein? Puis la chute originelle, on disait que ce péché commis dans un état d'innocence totale était un épouvantable péché d'orgueil, tel que jamais les hommes ne pourront en commettre de plus grave, disait-on. Je me souviens, on nous disait ça. C'était terrible. Et si Adam et Ève n'étaient pas tellement développés sur le plan culturel, ils avaient quand même, eux, une grande avance sur nous au point de vue spirituel. Et c'est donc en pleine lucidité, nous disait-on, qu'ils ont désobéi à Dieu. Et voilà la gravité de leur faute présumée. Puis la conséquence de cette chute, eh bien, privée des dons préternaturels, les pauvres, que nous aurions dû nous autres recevoir aussi en tant que fils d'Adam, bien, ça nous a été enlevé à tout le monde. Nous sommes privés donc de la grâce surnaturelle originelle et pour que nous la retrouvions, bien, il faut que la faute de nos premiers parents soit effacée. Comment est-ce qu'elle va être effacée? Bien, par celui avec un C majuscule, n'est-ce pas, qui est seul capable de réparer la désobéissance originelle, en offrant au Père un sacrifice d'expiation, expié, et qui est, si ce n'est évidemment le Fils de Dieu, lui-même, en s'incarnant. Et voilà le sacrifice du Christ qui doit réparer la faute d'Adam et Ève. Alors, en s'offrant sacrifice, le Fils de Dieu fait homme, apaise, disait-on, la colère de Dieu. Comme on chantait au minuit chrétien, puis ça se chante encore, quelle horreur. Hein? C'est presque blasphématoire, ce chant, à mon avis. Je regrette de le dire. C'est abominable de dire des choses comme ça de Dieu notre Père. Jésus nous a enseigné quoi au sujet de son Père? Pense à la parabole de l'enfant prodigue, où le Père est si bon. C'est affreux. Moi, j'entends quand j'entends ce chant à la messe de minuit, j'ai le goût de crier. Alors, Fils de Dieu satisfait, disait-on, à la justice de Dieu. L'obéissance du second Adam, Jésus, répare la désobéissance du premier. Alors on lit dans l'Épître aux Romains, « Comme la faute d'un seul entraînait sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul procure à tous la justification. » Mais comment interpréter ce texte? Je me sens tout à coup bloqué. On enseigne même que ceux qui ne bénéficient pas du baptême, je me souviens, on me disait ça quand j'étais jeune, si l'enfant n'est pas baptisé, eh bien, il ne bénéficie pas des mérites de ce sacrifice rédempteur, du sang versé sur la croix. Et ils peuvent donc pas entrer, ces pauvres enfants, dans le royaume des cieux. Alors les enfants morts, sans avoir reçu le baptême, s'en vont donc dans les limbes, une espèce de paradis naturel où l'on ne jouit pas de la vision de Dieu. Et voilà qui réglait les choses. Alors on nous enseignait, croyez-moi pas, on nous enseignait dans les années 30, fallait se précipiter sur un verre d'eau ou même de Coca-Cola, ça pouvait servir pour le baptême, mais pas le whisky parce qu'il n'y avait pas assez d'eau, etc., etc. Et si on baptisait avec du whisky, l'enfant n'allait pas au ciel. C'était tragique, on mettait ça dans nos petites âmes. Quelle vision de Dieu nous donnait-on? Alors, il y avait, à l'époque, bien des choses qui tournaient par rond. Des choses qui, à mon sens, sont inconcevables. Il ne faut pas oublier qu'il fallait aussi l'immolation de soi-même à la justice de Dieu, car cette justice n'est pas complètement satisfaite du sacrifice de Jésus. Et pour nous unir au sacrifice du Christ, ben, nous devions donc, à notre tour, nous offrir à Dieu en sacrifice. Pour sauver les pécheurs, les âmes consacrées sont donc invitées à s'offrir comme victimes à la justice de Dieu, puis en attirant sur elles-mêmes la colère divine, là, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles jouent en quelque sorte le rôle de paratonnerre. Me souviens, on nous disait que les moines à Saint-Méland-du-Lac étaient les paratonnerres. Et puis, on nous disait ça en 44, oui. Puisque nous détournions les moines bénédictins et les cloîtrés, nous détournions sur nous des châtiments qui devraient normalement s'abattre sur les grands pécheurs. Et en nous offrant ainsi à leur place, nous sauvions le monde. Et saviez-vous que c'était l'idéal des carmélites au siècle dernier, tel qu'il était présenté dans un ouvrage qui servait à la formation des novices? Mais Thérèse, l'enfant Jésus, va arriver. Et elle va comprendre ça autrement, puis elle va être nommée docteur de l'Église et va libérer. Elle n'est pas la seule à avoir pensé comme ça, mais elle est celle qui a le plus répandu cette saine doctrine de l'amour de Dieu qui sauve le monde. Je vais vous expliquer ça dans quelques minutes avec toujours l'abbé Pierre Descouvemont grâce à son magnifique livre « Le guide des difficultés de la foi catholique ». Alors, je vous disais que c'était l'idéal des carmélites et des moines en général à la fin du siècle dernier. Dans un ouvrage qui servait à la formation des novices carmélites, on peut lire ce qui suit, je le cite, « La fin ou le but de l'ordre du Carmel est d'honorer l'incarnation et les anéantissements du Sauveur, de s'unir plus étroitement au Verbe fait chair et de glorifier Dieu par l'imitation de sa vie cachée, souffrante et immolée. C'est encore de prier pour les pécheurs, de s'offrir pour eux à la justice divine et de suppléer par les rigueurs d'une vie austère et crucifiée à la pénitence qu'ils ne font pas. Cet ordre du Carmel demande donc des âmes généreuses, mortifiées, zélées, qui se renoncent elles-mêmes, et se substituent courageusement comme des victimes à la place de notre divin maître, devenu impassible. Imaginez, Jésus devenu impassible, c'est-à-dire ça le touche plus maintenant. Il n'a plus aucun sentiment. Il est impassible. Alors, elle se substitue comme ça pour être immolée comme lui à la gloire de son Père et au salut des âmes. Devant tout ça, comment arriver à aimer Dieu, mon Dieu? Peut-être faut-il remettre tout ça en question, cette représentation, et c'est ce que je veux faire, comme l'abbé Marié l'a fait, comme l'abbé Claude Bertrand l'a fait lundi, et ça sera fait encore, je l'espère, parce qu'il faut répéter et répéter jusqu'à temps qu'on s'ouvre le cœur à l'amour de Dieu, profond, et tellement ouvert à l'amour de Dieu que nous ne pourrons plus jamais pécher contre lui, je l'espère, jamais blesser cet amour immense qui nous enveloppe. Comment blesser un cœur si doux, si bon, si humble, si tendre? Comment blesser Dieu? Comment ne pas devenir amoureux de lui et se laisser prendre par l'Esprit d'amour, l'Esprit Saint? Comment ne pas devenir des saints quand nous sommes pris et saisis par l'amour de Dieu? Croire que Dieu nous aime, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Oh, jamais. Au contraire, c'est qu'on ne peut plus faire n'importe quoi. On ne peut plus que plaire à Dieu et devenir des saints. On ne peut plus faire autrement. On a le goût de crier, de faire des émissions, justement, et de faire qu'elles soient connues, et de faire que les gens se convertissent, et de faire que les gens remplissent nos églises pour recevoir la très sainte Eucharistie. Il y a des contestations légitimes qui circulent depuis des siècles à l'égard de la conception que je viens de vous décrire. Tout d'abord, le langage du chapitre 3 de la Genèse, comme je vous ai dit au début de l'émission, qui est un langage mythologique, à ne pas prendre davantage à la lettre que les 6 jours de la création du chapitre 1er de la Genèse. Pourquoi est-ce que j'ose dire ça? C'est que l'encyclique, je dis bien l'encyclique du pape Pie XII, Divino afflante spiritu. Je donne le titre latin. Tout le monde qui est un peu conservateur connaît bien cette encyclique. Elle date de 1943. Bien, l'encyclique du pape Pie XII reconnaît qu'il fallait tenir compte des différents genres littéraires utilisés par les auteurs de la Bible. C'est élémentaire. Tout le monde est au courant de ça, j'espère. Or, nous savons aujourd'hui que les descriptions de paradis terrestres, ça fait partie couramment, ça, de ces récits mythologiques dans lesquels nos ancêtres très lointains se représentaient volontiers leurs origines là, sous la forme d'un âge d'or. Puis ça expliquait comme ça la présence du mal dans le monde par la chute d'un couple originel. Et comme le dit si bien l'abbé Descouvement, nous ne sommes donc pas obligés de croire à l'existence d'un couple unique, à l'origine même de l'humanité, le mot Adam, qui signifie littéralement « terreux », qui vient de la terre, « tiré de la terre », « Adama » en hébreu. Et le mot « Ève », lui, signifie « mère des vivants ». Mais ce sont des noms symboliques. Il faut donc laisser les scientifiques, les anthropologues, discuter la question de savoir si la mutation qui a donné naissance à l'humanité, au terme d'une longue, longue évolution des hominidés, comme on les appelle, ceux qui n'étaient pas encore des hommes, s'est réalisée une ou plusieurs fois, on ne sait pas si c'est une ou plusieurs fois. Y a-t-il eu, comme on dit, monogénisme ou polygénisme? On ne sait pas, ça ne regarde que la science, nous n'avons pas à nous occuper de ça. D'accord, il est vrai que dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5, Saint Paul, l'apôtre, oppose la désobéissance d'un seul homme, à l'obéissance d'un seul qui est Jésus. Mais pas plus ici qu'ailleurs, nous ne devons demander à la Bible de satisfaire notre curiosité sur les origines de l'homme et de l'univers. Saint Paul, lui, il est redevable de son temps. C'est un juif qui a vécu il y a 2000 ans. Et d'autre part, l'affaire des limbes dont je vous ai parlé sont l'invention d'une théologie qui essayait de justifier la nécessité absolue du baptême des petits-enfants. Une théologie qui oublie une donnée pourtant bien essentielle de la révélation, c'est le Christ est le sauveur de tous les hommes. Il faut donc pas attribuer au premier Adam une causalité universelle comme on pense, parce qu'il a péché tout le monde étant taché. Il lui faut de l'eau du baptême pour entrer au ciel. Faut pas attribuer donc au premier Adam une causalité universelle. Dans tout ce problème du salut, comment Jésus nous a sauvés? Parce que l'Écriture attribue le salut qu'au Christ. C'est dans le Christ que le Père nous a choisis, nous a élus de toute éternité pour être saints et immaculés en sa présence, remplis d'amour, les yeux ouverts à l'amour de Dieu. L'ancienne représentation de l'histoire du salut dont je viens de vous faire, ça réduit considérablement le rôle du Christ. Il est celui qu'on appelle, on dirait pour réparer une installation qui avait été bien pensée, qui aurait dû fonctionner sans bavure au paradis, là, au paradis terrestre. Et si ta tête avait bien marché, ben notre tête, notre chef, notre bienfaiteur et seigneur, ce ne serait pas Jésus le Christ, mais ce serait Adam. C'est lui notre bienfaiteur, il aurait pas péché, puis il nous aurait transmis ses dons. Ce ne serait pas aller vraiment dans le bon sens. C'est pas le Fils de Dieu, fait homme dans notre histoire, pour venir parmi nous, pour précéder puis nous attirer, mais ce serait comme ça ce lointain ancêtre qui aurait tout décidé pour nous d'un seul coup. Comme le dit si bien le Père François Varon, avez-vous lu ce Dieu censé aimer la souffrance? Si vous l'avez, qui parut il y a déjà 15 ans, vous pouvez voir ça à page 177, c'est très bien. Je m'insurge enfin contre l'idée d'un Dieu vengeur. Un Dieu vengeur qui exigerait un sacrifice sanglant pour apaiser sa colère contre ses enfants. Moi, j'ai jamais pu accepter une telle horreur, même quand j'avais 15-16 ans. Je suis entré à Saint-Benoît-du-Lac pour me jeter dans l'amour de la Trinité. Je n'avais aucune idée de sacrifice. Je m'offrais dans l'amour. C'était comme ça, quand on lisait Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus, on comprenait ces choses-là. Il est vrai que la Bible parle plus d'une fois de la colère de Dieu, mais cette colère, c'est celle d'un époux blessé. Et il est blessé, vous souvenez, par l'infidélité de son épouse. On voit ça dans l'Ancien Testament, dans Osée. C'est celle d'un père bouleversé par le malheur de son enfant, hein? Un enfant prodigue. Mais aussi dans l'Ancien Testament, il supplie son épouse, il supplie son enfant de revenir à lui. On dit souvent que Dieu continue à aimer les pécheurs, et c'est vrai, mais contre le péché qui abîme le pécheur, la colère est terrible. Dieu déteste le péché. Et nous, le détestons-nous à nous assez le péché pour lutter contre ces horribles péchés qui circulent dans la société et qui abrutissent nos jeunes et même les adultes? D'accord. La Bible nous montre souvent Dieu en train de punir les pécheurs, mais c'est afin qu'ils se corrigent de leurs errements. Afin qu'à la manière de l'enfant prodigue, ils rentrent au-dedans d'eux-mêmes. C'est une longue éducation que fait la Bible. Dieu veut qu'ils se souviennent enfin de celui qu'ils ont quitté, lui, et en qui ils pourront trouver de nouveau le bonheur. Mais Dieu ne se venge jamais, voyons. Ça n'a pas de sens. Ce qui lui plaît dans le sacrifice de son Fils et dans les nôtres, ce n'est évidemment pas la souffrance de ses enfants, c'est la confiance que nous continuons à lui faire au creux même de nos épreuves. Ce qui lui plaît, là, c'est notre obéissance au sens étymologique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important, l'obéissance. Ça vient du mot ob audire, qui signifie tout simplement écouter. Écouter comme un fils, une fille écoute son père qui l'aime. Donc, nous réparons tous nos manques de foi, d'espérance et d'amour. Lorsque plongés dans la souffrance, nous l'écoutons nous redire son amour. Ce qui lui plaît, c'est notre foi inébranlable en sa tendresse. C'est normal, nous sommes comme ça nous aussi, hein? Nous sommes créés à son image, et c'est pour avoir bien compris cela, le 9 juin 1895, en la fête de la Sainte Trinité, que sœur Thérèse l'Enfant Jésus désire s'offrir non pas à la justice de Dieu, mais à son amour miséricordieux, afin d'être consumée dans l'amour. Je vais y revenir tout à l'heure. Je vous ai dit que les carmélites avaient une spiritualité très janséniste, en fait. Au 19e siècle, il surgit tout à coup, grâce à Dieu, la petite Thérèse Martin. qui entre là à 15 ans dans un Carmel à Lisieux. Et elle comprend, le 9 juin 1895, 2 ans avant sa mort, en la fête de la Sainte Trinité, elle comprend. Elle désire s'offrir, non pas, comme j'ai dit, à la justice de Dieu, mais à son amour miséricordieux. Elle veut être consumée dans l'amour. Les saints se consument dans l'amour, ils se consument pas dans la justice. Toute notre religion est une religion d'amour. Elle veut être une victime d'holocauste par le feu de l'amour divin. « Ô mon Jésus, s'écrie-t-elle, que ce soit moi cette victime heureuse. Consumez votre holocauste par le feu de votre divin amour. » Dans l'histoire d'une âme, je vous relis cet acte d'offrande à l'amour miséricordieux, c'est si beau. On peut le faire ensemble peut-être, offrons-nous tous, afin de vivre dans un acte de parfait amour. Je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Il y a autre chose que nous pouvons contester encore. C'est permis. Oui, il y a de plus en plus de contestations de la notion de sacrifice. Le mot, on l'utilise, mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais attention, je m'explique toujours avec l'abbé Découvemont, avec le cardinal Ratzinger, avec le père François Varonne, avec François Varillon, etc., et quantité d'autres. Thérèse l'Enfant Jésus. Notre Occident chrétien est devenu allergique à l'idée de sacrifice offert à Dieu, dans un sens pénible. Cette attitude sacrificielle est très fréquente dans les régions primitives. Ça date des cavernes, ça continue encore aujourd'hui. Vous savez que les musulmans offrent des millions de bêtes, ou en tout cas des centaines de milliers de bêtes à Allah. Ils font ça en Arabie Saoudite. Cette attitude sacrificielle, qui est donc fréquente dans l'Ancienne Alliance, chez les Juifs avant la venue de Jésus, apparaît souvent aujourd'hui comme contraire à l'enseignement du Christ. Dieu nous aime, écoutez bien, d'un amour inconditionnel. Il nous pardonne à la façon du père de l'enfant prodigue, sans rien exiger en retour. C'était bien dit tout à l'heure par l'abbé Marié. Vous écouterez son émission ce soir à 11h30. C'était enregistré, si vous voulez. Or, présentant la mort de Jésus comme l'accomplissement des sacrifices de l'Ancienne Alliance, l'Épître aux Hébreux, qui n'est pas de saint Paul, soit dit entre nous, serait, selon les grands théologiens, passablement infidèle au message de l'Évangile. Vous direz, c'est pas possible que des textes se contredisent. Mais oui, il y a de possibilités. Il faut aller au fond des choses selon la conduite de l'Église. L'abbé Découvemont dit bien qu'on retrouve cette contestation amplifiée dans la pensée de René Girard. Je ne m'étendrai pas longtemps, mais le sacrifice d'un bouc émissaire, d'après René Girard, serait le moyen, parce que c'est un bouc émissaire, hein? On met tous les péchés sur le bouc, puis on l'envoie pour le tuer. Puis là, tout le monde se réconcilie. Hein? Ce serait le moyen fondamental qu'on retrouve là, dans les sociétés primitives, pour mettre fin à cette espèce de cercle infernal de leur vendetta. Vous savez, dans les pays méditerranéens, là, surtout en Sicile, puis dans le sud de l'Italie, on parle des vendettas, là. Une famille contre une autre famille, puis ils s'exterminent presque les uns les autres. Alors on choisit un bouc émissaire, accepté comme tel par les deux parties, qui se disputent et qui se tuent. On tue le bouc émissaire de manière à refaire l'unité du groupe social. Alors le sacrifice, c'est donc une technique inventée par les hommes depuis longtemps pour maintenir la violence hors de leur communauté. Alors les fêtes religieuses célèbrent cette harmonie retrouvée, c'est pour ça qu'on parle de l'agneau de Dieu. Il y a une harmonie qui est retrouvée entre les groupes ou les familles ennemies qui ne pensaient qu'à se venger. Et René Girard pense éclairer ainsi le mystère de la croix. Et il pense que le sang du Christ n'est pas offert au Père en expiation de nos péchés, mais que le Christ se propose d'être le bouc émissaire, qui réconcilie les frères ennemis, afin de mettre fin à l'escalade de leur violence. Mais laissons René Girard. Moi, je préfère affirmer plutôt que nous sommes sauvés par l'obéissance de Jésus-Christ Sauveur. Je ne prétends pas donner ici une synthèse complète de toutes les données du Nouveau Testament sur l'œuvre de salut. J'ai pas le temps. La moitié de la mission est passée. Mais le Christ est venu accomplir sur la terre cette œuvre de salut. Et je voudrais présenter quelques-unes des idées fondamentales que développe saint Paul dans ses lettres et qui permettent de répondre à la question posée aujourd'hui. Comment Jésus a-t-il sauvé le monde? Il y a un double motif de l'incarnation, et vous connaissez ses paroles. Hein? Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. C'est dans le credo, et je crois ça, je crois en Dieu, et je crois ça. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Et le Christ n'est pas venu seulement pour nous révéler des vérités que nous n'aurions pas pu découvrir par nous-mêmes, si belle soit-elle et si merveilleux, et nous pouvons rendre grâce au Christ de nous avoir révélé ces vérités merveilleuses dont le christianisme est nourri. Mais il est venu réaliser quelque chose que nous aurions été incapables d'accomplir par nos propres forces. Et suivant la grande formule des pères de l'Église, vous savez, les grands auteurs spirituels d'il y a plus de 1000 ans, mais le Fils de Dieu s'est fait homme pour que les hommes deviennent fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le simple fait de notre appartenance à la race humaine ne suffisait pas à faire de nous des enfants de Dieu à part entière. Et tous les hommes sont appelés à le devenir. Mais ce passage en Dieu suppose un passeur, disons, un médiateur, si vous voulez, c'est le Christ. Il faut que le Fils unique vienne, disons, empoigner les hommes et les femmes là, pour que, par lui, avec lui et en lui, comme on dit à la messe, nous entrions tous ensemble. Effectivement, dans l'élan de l'esprit au sein de la famille trinitaire. Même si Adam n'avait pas péché, il semble bien que l'incarnation du Fils unique aurait été nécessaire. Pourquoi? Ben pour permettre aux hommes de passer en Dieu, comme je viens de le dire. Pour entrer effectivement dans l'élan de l'esprit au sein de la famille trinitaire. Parce que nous sommes des esclaves du péché. Comme nous sommes esclaves du péché, moi le premier, nous avons besoin d'être libérés. Et il faut le demander matin, midi, après-midi, soir, constamment. Il faut quelqu'un de plus fort que Satan. Parce que le Christ est par excellence mon sauveur, notre sauveur. Celui par qui Dieu nous sauve, c'est Yeshua, Jésus. Au doux nom de Jésus. Le Nouveau Testament présente ce salut comme le fruit d'une initiative absolument gratuite de la part du Père, d'un Dieu riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions perdus en raison de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est gratuitement que vous êtes sauvés. Dans le Christ, c'est le Père qui nous libère. C'est le Père qui nous libère, qui nous sert contre son cœur. On utilise le mot qui nous rachète, qui nous arrache aux griffes de celui qui ne veut pas. Qui fait de nous, c'est le Père, oui, qui fait de nous ses enfants, en répandant son esprit dans nos cœurs, cet esprit d'amour, qui est si doux, qui fait les saints comme je les envie. Tous ces termes que je viens de vous dire, exprime ce qu'on a appelé fort justement la médiation descendante du Christ. C'est-à-dire que, par le Christ, le Père fait descendre sur nous des torrents inépuisables de sa miséricorde. Mais l'Écriture, la Bible, le Nouveau Testament utilise un autre langage pour exprimer ce salut que le Christ nous apporte. C'est celui d'une médiation ascendante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Nouveau Testament présente en effet la mort du calvaire comme un sacrifice que le Christ a offert à son Père en notre faveur. Il s'est livré pour nos péchés, pour l'Église, pour moi, et il a anticipé cette offrande de lui-même à la dernière scène. « Ceci est mon corps livré pour vous. » Ce sacrifice, plein d'amour, mais le Christ ne cesse de l'offrir à son Père dans le ciel, comme nous le montre l'Épître aux Hébreux. Et il le rend présent sur nos autels pour que nous puissions par lui, avec lui et en lui dans l'amour, nous offrir à notre tour, à notre Dieu, oui, le Père, en louange de gloire. Tout ça s'accomplit dans un immense élan d'amour. Mais c'est-à-dire que le Père avait besoin de ce sacrifice du Christ pour réconcilier le monde avec lui? Absolument pas! Absolument pas! Vous direz que ça n'a pas de sens de dire ça aujourd'hui au 20e siècle. Bien, si je retourne à quelqu'un qui est mort en l'an 202, ça fait longtemps, ça fait 1800 ans qu'il est mort. J'espère qu'on va célébrer son 18e centenaire de sa mort dans quelques années. Il faudrait que je vous fasse une émission sur Saint-Irénée. Parce que, il le précise, Saint-Irénée déjà, il dit, si Dieu sollicite des hommes une oblation, c'est pour celui-là même qu'il l'offre. En somme, Dieu veut que nous nous offrions, parce qu'il nous aime, parce qu'il sait que ça va nous faire du bien, nous, les hommes, les femmes. Parce qu'il dit, Dieu n'a pas besoin de notre sacrifice, mais celui qui offre est lui-même glorifié du fait qu'il offre, si son présent est accepté. En somme, c'est l'homme qui grandit dans l'amour de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Saint-Irénée, il y a 1800 ans. Autrement dit, Dieu n'est pas paternaliste. Il ne nous aime pas en notre absence. Il accorde vraiment du prix. Oui, il accorde du prix à notre offrande, à nos gestes de réparation et d'expiation. Ce langage de médiation ascendante, ça ne doit pas nous dérouter du tout, du tout, du tout. C'est ce qu'on fait à la messe, c'est ce qu'on fait le matin quand on se lève, c'est ce qu'on fait toute la journée, j'espère, nous sommes en action de grâce et en offrande amoureuse. Ça contredit pas la gratuité absolue du salut que Dieu nous accorde, mais il nous prouve que Dieu nous aime tellement, 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 qu'il nous donne la possibilité de lui offrir une réparation qui lui plaise. Appelons ça comme ça, une réparation, parce que elle est, en son Fils, une offrande amoureuse. C'est comme si nous offrions avec son Fils un immense bouquet de fleurs. Immense! Cette offrande de nous-mêmes, nous ne pouvons d'ailleurs l'accomplir qu'en participant à l'offrande de lui-même que le Christ a faite une fois pour toutes durant sa vie terrestre. Et nous comprendrons bien mieux ce lien entre le sacrifice du Christ et le nôtre. Simplement, si on se donne le trouble deux secondes de réfléchir à ce que Paul écrit aux Romains, Saint Paul écrit aux Romains, là, à savoir que nous sommes sauvés par l'obéissance du Christ, le nouvel Adam. Hein? Je vous en ai parlé. L'obéissance, c'est écouter les mots d'amour de Dieu notre Père. Combien il nous aime. Relisons toujours la parabole de l'enfant prodigue et nous verrons. Hein? En somme, Dieu nous entraîne avec le Christ dans l'obéissance. C'est le Christ qui nous entraîne dans son obéissance. Obéissance dans le sens, je dis bien, d'écouter avec amour et tendresse le souffle éternel de l'amour de Dieu. Quand l'Épître aux Hébreux présente le Christ comme le parfait modèle d'obéissance au Père, là, elle exprime, me semble, l'attitude profonde du Christ. « Je suis descendu du ciel, disait-il, pour faire non pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est une douce volonté d'amour, une obéissance qui lui en coûte. Il dit, « Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Mais comment cette obéissance héroïque du Christ contribue-t-elle à notre salut? Ben, il faut rappeler d'abord notre extrême difficulté à obéir nous-mêmes à la volonté de Dieu, puis la volonté de Dieu est de faire de nous des dieux, de nous faire entrer dans sa famille trinitaire, sans être des dieux dans le même sens que la Trinité, évidemment, de nous faire participer alors à la vie divine de son Fils unique. Mais du fait de notre condition de créature, là, on est des créatures. Bon, nous devons recevoir cette vie, grande vie divine, comme un cadeau absolument gratuit, dans une attitude d'action de grâce et de bénédiction. Oui, l'homme doit attendre Il doit apprendre à demander, à tendre les mains comme un enfant, sans oublier de dire « s'il te plaît » et « merci Seigneur ». « Ah oui, mon Dieu, Père, je te rends grâce, je te dis merci. Merci. » Ce beau chant qui acclame au fond l'Eucharistie nous rappelle que le mystère pascal, que le Concile Vatican II a bien remis en valeur, hein? Eh bien, il faut bien réfléchir à ça, que nous ne sommes pas seulement sauvés par la mort du Christ, qui est un grand cri d'amour, mais par sa résurrection et par le contact que nous pouvons avoir chaque jour avec sa chair de ressuscité dans l'Eucharistie. C'est en mangeant son corps, je vais vous parler de ça demain, et en buvant son sang, si étrange que cela puisse paraître, que nous recevons la vie divine, sa vie de Fils, et que nous plongeons dans la Trinité, dans ce tourbillon d'amour. Vous savez, au cours de notre existence, il nous faut dire oui à deux aspects contrastés de notre condition humaine. Oui à notre misère, et oui à notre grandeur. Un jour ou l'autre, on s'aperçoit de notre misère. Ça arrive souvent quand on a 16, 17 ans, 20 ans. Mais parfois 30 ans, 50 ans. Et cette tentation est pleinement surmontée quand on se rend compte de notre misère, on se rend compte aussi de la miséricorde de Dieu. Quelle joie alors ont tous ceux qui se convertissent de découvrir un jour, à travers nos infidélités, on a une joie de quitter nos infidélités pour adhérer à la fidélité de Dieu et à son amour. C'est ça la conversion. Quelle joie nous éprouvons. Mais à l'âge mûr, il y a une autre tentation qui apparaît encore plus insidieuse que la précédente. Nous risquons de nous habituer à notre médiocrité. Nous ne sommes pas parfaits. Bon, du bas, qu'importe. Moi, c'est pas fait pour ça. Je serai jamais parfait. Je suis un pécheur. Je suis comme ça. Personne ne l'est de toute façon. Il faudrait bien que Dieu nous accepte tel que nous sommes. Puis d'ailleurs, sa joie n'est-elle pas de pardonner à ses enfants? Alors, il me pardonne tout le temps. Puis il y a pas de problème. Il est tellement bon. Et on se résigne à n'être pas des saints. Puis on se laisse embourgeoiser. Puis on vit dans le péché. Une terrible tentation quand on est adulte. On se dit, je suis ici, je suis ça, et puis voilà. Ça peut être celle d'un jeune, mais c'est souvent celle des gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans. On ne veut plus écouter la voix de Dieu qui nous appelle tous à la sainteté, puis on devient blasé, plate, moche, tiède. Mais le Christ nous sauve en venant prononcer en nous les deux oui que nous devons dire à notre condition de pauvre pécheur appelé à la sainteté. Qu'est-ce que c'est? Sans avoir jamais péché lui-même, Jésus fait passer en nous le oui fondamental. Quel est ce oui fondamental? C'est le oui qu'il a donné durant toute son existence à sa condition de créature. Car, tout en étant là, le Verbe éternel, par qui tout ne cesse d'être créé, il a assumé une nature humaine créée. Puis il vient nous aussi renouveler en notre cœur le désir de sainteté, qui ne cesse d'y susciter en nous créant à son image, et qui nous crée à son image, nous sommes à l'image du Christ. Et autrement dit, il nous permet de ratifier pleinement notre origine, puis notre destinée. Alors nous venons de Dieu, et nous avons à recevoir là, toute notre vie comme un don du Père. Père, ma vie vient de toi. Et nous allons donc à Dieu, et nous avons à faire de toute notre existence, un chant d'amour à la louange de sa gloire, je le dirai jamais assez. Il faut donc faire attention à la représentation ancienne du péché originel, qui est un péché épouvantable d'orgueil, qui ressurgit, commis par un premier humain. Nous sommes tous Adam et nous sommes tous Ève. Et nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous besoin d'être sauvés. L'homme est créé pour vivre dans une parfaite intimité avec Dieu, dans une totale harmonie aussi avec la nature. Puis dès le début de la Bible, le dessein de Dieu sur l'humanité là, nous est présenté, c'est formidable, d'une façon symbolique. C'est beau les textes de la Genèse. Et saint Irénée, qui est mort en 202, je vous le rappelle, dit bien que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Et c'est là la description du bonheur parfait. C'est le langage symbolique à travers lequel nous est affirmée la condition surnaturelle à laquelle tous nous sommes appelés. Les premiers livres de la Genèse sont comme la préface de la Bible. C'est le début. Dieu nous annonce dès les premières pages non ce qui s'est passé aux origines de notre histoire, mais il nous parle du salut définitif auquel il veut nous faire parvenir. C'est clair. Notre condition mortelle n'est pas la punition du péché d'Adam et Ève, c'est la conséquence naturelle de notre condition d'être matériel. Et les hommes d'aujourd'hui subissent, malgré eux, les conséquences de tous les péchés de leurs ancêtres. Et c'est le péché originel. Nous vivons dans une culture qui est marquée depuis toujours par ce que Jean appelle le péché du monde. Saint Jean l'appelle comme ça, le péché du monde. Et que la Genèse appelle le péché de l'homme, d'Adam. Puisqu'Adam, c'est un terme générique. Et en venant au monde, ben, nous entrons dans une espèce de champ magnétique qui nous pousse au péché. Dans ce que la première lettre de Saint Jean appelle le monde de la concupiscence et de la convoitise, et nous y sommes plongés dans cette civilisation actuelle avec les moyens de communication qui ne nous parlent guère que de concupiscence et de convoitise. Et dans ce qui fait notre caractère, nos qualités puis nos défauts, notre façon de comprendre la vie, nous sommes égoïstes, dévoués, ou dévoués, ben notre valeur morale, notre foi, puis notre désespoir aussi. Nous sommes en solidarité avec les autres, avec notre famille, notre entourage, notre milieu professionnel. Nous sommes plongés dans ce monde et nous devons en sortir sauvés par le Christ. Et pour ça, bien, il faut communier au Christ. Et la plus grande façon de communier au Christ, c'est d'aider les plus pauvres et les plus malheureux et de recevoir son corps sacré dans la très sainte Eucharistie.